Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Pays d'Hérault, RPH Sud. Nous sommes aujourd'hui à l'Odève, centre-ville, plus précisément au Hall d'Ardé, dans le cadre de la fête des mobilités douces, mise en place ici, place du marché, aujourd'hui, samedi 6 avril, jusqu'à 19h. Bonjour Isia, bonjour Cédric.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue autour de ce plateau radio. Bonjour au public également qui est présent en masse. Donc au programme de cette journée, une programmation riche autour de cette thématique, les mobilités douces. Et on va en parler ensemble dans cette émission qui est aussi un plateau radio avec quelques invités qui vont venir raconter leur expérience. Mais avant cela, petite introduction avec vous deux. Donc Isia, je rappelle que tu es Isia Gourmelon, élue à la communauté de communes Lodévoir-Larzac, en charge du centre socioculturel qui organise cette journée.
Tout à fait.
Première question, tout simplement la question super simple. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'organiser cette deuxième édition de la Fête des mobilités douces ?
Alors la Fête des mobilités douces, elle a écoulé vraiment d'une envie de parler de ces sujets-là et de manière ludique et accessible, et du coup d'amener une réflexion aux plus jeunes et aux moins jeunes autour de comment on fait les trajets, comment on réfléchit notre mobilité au quotidien. Voilà, et je remercie vraiment du fond du cœur le Centre social et culturel de l'Odève, ainsi que tous les partenaires de la journée, bien évidemment, mais qui ont œuvré et qui, je trouve, ont fait une programmation qui est vraiment étoffée et qui, d'année en année, je l'espère, va amener à un chouette festival qui pourra s'installer dans les programmations annuelles de la ville.
Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur le programme ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir cet après-midi ici au centre-ville de l'Odève ?
Alors, déjà, on a une grande allée qui est bien visible sur le BMX et l'initiation BMX. Alors, on va avoir des démonstrations, mais également une possibilité de s'essayer. Après, il y a tout le volet, finalement, des personnes qui peuvent venir avec notamment leur vélo pour apprendre à le réparer, apprendre à l'entretenir. Le marquage bicycode également qui permet de permettre au vélo d'être plus facilement identifiable en cas de disparition. Donc voilà, et puis après il y a tout un axe aussi autour des plus jeunes avec des petits stands pour découvrir le vélo, s'essayer aux roulettes, et on a également autour des marches piétonnes avec la marche nordique. Donc voilà, ça fait vraiment une proposition qui essaye d'être la plus complète possible. On est à la deuxième édition aujourd'hui, et sincèrement, on voit déjà le bond en avant qu'on a fait, et je l'espère n'est que le début d'une grande aventure.
Alors d'ailleurs, je signifie que ça y est, les démonstrations de BMX ont commencé, hein. Ça y est, ça commence à sauter, ça le fait carrément. On ira voir ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Isia.
Est-ce qu'on, avec plaisir.
On peut indiquer aussi que devant, ici, les Hall d'Ardé, il y a des affiches qui sont proposées au public, qui ouais. Montrent un peu le projet de la ville autour de cette question de la mobilité
Complètement.
Douce.
Aujourd'hui, il y a une proposition de schéma directeur des mobilités douces qui est alors accessible dans son intégralité sur le stand du Centre social et culturel, et c'est avec les agents de la mairie qui, du coup, ont le document complet sur leur petit stand, si jamais il y a des lecteurs qui ont envie. Et puis après, on a fait des affichages voilà, tout le long de la halle avec quelles sont les propositions et quelles sont les réflexions aujourd'hui qui sont en cours sur les différents schémas, les axes qui leur semblent, enfin, qui nous semblent pertinents de travailler, voilà, les aménagements qu'il faudrait faire, toute la question autour des berges qui aujourd'hui sur la ville de l'Odève est quand même une vraie point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui on n'est pas encore en capacité de les aménager, notamment parce qu'on n'a pas atteint les qualités d'eau recommandées. Mais par contre, c'est vrai que ça reste aujourd'hui sur une ville comme l'Odève qui est au croisement de deux rivières un vrai enjeu au terme de la mobilité douce pour la ville de l'Odève.
Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation donc, de la journée qui a lieu jusqu'à 19h. Et ce sont des animations entièrement gratuites, ouvertes à toutes et tous. N'hésitez pas à venir y faire un petit tour si vous êtes dans les parages, c'est l'occasion.
Bah, merci beaucoup. Et puis, je laisse les plus experts parler de ces sujets-là. Merci.
Merci beaucoup, Isia Gourmelon, élue à la ville, à la communauté de communes, en charge du centre social culturel de l'ODEV. Nous sommes maintenant avec Cédric de l'association Modèle. Alors Cédric, ce plateau radio, il est un peu à l'initiative de ton association.
Oui, l'invitation du centre socio-culturel. Modèle, c'est une association qui a pour but de plaidoyer pour les mobilités douces en Lodévois et l'Arzac. Et on s'est fixé pour objectif de consulter les habitants sur leurs besoins en termes de mobilité sur le territoire, les synthétiser et les porter auprès des instances de décision et les collectivités. Pour cette fête des mobilités, à la demande et en partenariat, donc, comme je disais, avec le centre socio-culturel, merci Rachel de nous avoir invités, on a voulu faire témoigner des usagers du quotidien en ville, mais qui sont aussi des voyageurs au long cours, de les faire témoigner sur leurs expériences agréables ou moins agréables pour imaginer ce qui serait transposable au niveau local, c'est-à-dire d'étendre le champ des réflexions, le champ de ce qu'on appelle les imaginaires. On vous invite après l'émission à nous rejoindre sur le stand de l'association. Vous y verrez notamment les travaux de Lorenzo, qui est lycéen en communication visuelle ici au lycée Joseph Vallot, et qui est handicapé en fauteuil roulant et qui a pris le temps d'imaginer ce que serait la ville de l'ODEV plus accessible pour lui. Donc au nom de toute l'association Modèle, je vous souhaite une bonne émission et je laisse la place aux invités.
Merci beaucoup Cédric de l'association Modèle d'avoir lancé cette émission. Et donc on retrouve autour de la table Nina, David et Gaylor. Bienvenue à tous les trois, je vous laisse vous installer. Donc comme nous l'a indiqué Cédric, ces personnes ont réalisé des voyages et donc on va partir à la découverte de leur expérience et de ce qui s'est passé pour elles et eux. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Alors,
David, il va falloir que tu te rapproches un tout petit peu du micro pour qu'on t'entende bien comme il faut. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'émission tous ensemble. Hein, je vais vous poser des questions qui sont un peu générales pour tous les trois. Et vous n'hésitez pas, on a le temps donc, de rentrer un petit peu dans les détails de vos différentes expériences. Alors, la première question, elle va être plutôt simple parce que vous pouvez, chacun et chacune, présenter les différents projets. En fait, quel était le projet à la base de votre voyage? Alors, je ne sais pas, peut-être on peut commencer par toi, Nina.
Alors, mon voyage s'est déroulé entre 2014 et 2018. Il a duré 4 ans et je suis partie avec ma famille, c'est-à-dire mon compagnon, nos deux enfants qui avaient à l'époque 4 mois et 4 ans. Et donc, on est parti pendant... Voilà, ça a duré en tout 4 ans avec des équidés. Donc, on a passé 3 ans avec des ânes de bât et 1 an avec des chevaux qui tiraient une roulotte. Voilà, ça entre la France et l'Espagne.
Très bien. Je ne rentre pas encore dans les détails, hein, volontairement, pour vous laisser présenter ça de façon un peu synthétique au début, et puis ensuite on rentrera dans les détails. David, vous aussi, vous avez voyagé en famille.
Oui, nous, on voyage beaucoup en famille, en fait. On voyage tous les ans en famille avec Mylène et Alix. On essaye de se faire un petit mois en vélo, en itinérant. Dans des lieux assez variés. On essaie toujours de trouver des circuits un peu secondaires, des routes où il n'y a vraiment pas de voiture, où on est tranquille. Et l'année dernière, on était parti en Allemagne, on s'est fait un petit trip de 500-600 km en vélo avec Alix. Donc elle commence à faire du vélo, on a la carriole, le vélo, les licornes, tout ce qu'il y a avec un enfant sur les routes, avec des bonnes rencontres avec les enfants, ça c'est intéressant. Et avant, on faisait aussi des voyages, mais on n'était que deux, donc c'était un petit peu différent. C'était un peu plus aventurier, on va dire.
D'accord. Bon, j'ai l'impression que l'aventure, c'est un peu un point commun que vous avez quand même tous les trois. À ta gauche, on retrouve Gaylor. Alors, toi, tu es plutôt voyageur solitaire, d'après ce que j'ai compris.
Oui, oui, moi je trimballe une roulotte donc à vélo, non assistance électrique. Et je roule à 5 km/h de moyenne et à 1 km/h dans les côtes. Après, tout seul dans cette roulotte et jamais seul sur la route parce que forcément cette roulotte elle attire beaucoup les regards et beaucoup de discussions, elle interroge beaucoup. Donc je rencontre énormément de monde, je suis parti avec elle depuis septembre 2022. Et avant j'avais fait un autre voyage en 2021 avec un prototype qui m'a permis d'imaginer la construction de celle-ci. Et puis je suis arrivé au festival du Rockastel au Kellar au mois de juillet l'année dernière. Et il s'est passé plein de choses ici et finalement j'ai décidé de passer l'hiver dans la région pour préparer une saison estivale et repartir là fin avril.
Ok, donc une belle liberté d'aller et de t'arrêter où bon te semble.
C'est ça, oui. L'idée c'était vraiment de réduire mes charges financières et donc de récupérer du temps. Donc quand je me déplace, 12 km c'est déjà un voyage pour moi. Mais en âne, je pense, j'avais imaginé aussi partir en voyage avec une roulotte avec les chevaux et j'ai décidé d'être le cheval quoi, dans cette expérience en tout cas. Voilà.
Ok, merci à tous les trois pour cette petite présentation. Alors ces voyages, c'est des projets à la base qui sont personnels, familiaux. Comment vous vous êtes lancé entre l'idée qui a germé dans votre tête et ensuite le fait de partir et d'y aller ? Comment ça a commencé pour vous ?
Alors de mon côté, ça a commencé par une espèce de rêve. On a acheté un âne, on a rencontré une famille de voyageurs. Ce qui m'a un peu convaincue que c'était possible, parce que moi j'étais convaincue que c'était pas possible de partir avec des petits-enfants comme ça au long cours. Et de vraiment la rencontre avec cette famille de voyageurs, ça m'a permis de ensuite acheter un deuxième âne et ensuite se mettre en route, quoi.
Voilà. Mais à la base, vous n'étiez pas forcément connaisseur des ânes, des équidés
Pas du tout. Ça a été sur le tas, pas mal. Enfin, on a fait des petites formations, mais assez rapides. Et puis, on a commencé à voyager pendant une semaine, deux semaines, un mois, avec le premier âne qu'on a acheté, pendant 2 ans avant le grand départ, quoi.
D'accord. Ok. Et la marche, peut-être vous en faisiez déjà un petit peu ?
Pas spécialement. Non, okay. Non, ça a été vraiment, ça a été un départ comme ça. Enfin, j'ai déjà fait des randos, oui, mais c'était pas au centre de ma vie, quoi.
Ok. Et avec les enfants, du coup, ça, c'était aussi une envie que vous aviez de partir forcément tous les quatre.
En fait, ça s'est fait comme ça. C'était l'opportunité aussi de le faire à ce moment-là. Ça s'est fait de façon un peu opportuniste, on va dire, et chemin faisant. Il n'y avait pas une volonté à la base de faire ça. C'est dire, allez, on va essayer, et puis aller un peu plus, et puis hop, allez, après on est parti pour de bon. On est parti à la base pour 1 an, et les 1 an se sont transformés en 4 ans, mais petit à petit, quoi.
Et alors, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais tu avais une de tes enfants était très jeune à l'époque.
Oui, bah la plus grande avait 4 ans et la petite avait 4 mois.
Et comment on part sur les routes à pied avec un âne, avec une enfant de 4 mois ?
Eh bien, on se dit que ça fera, il n'y aura pas de biberon à porter, et que finalement c'est tout petit et que ça... C'est un bon moment, je pense, parce que l'enfant, il est très malléable. Donc il est dans le dos.
S'adapte facilement.
Il s'adapte facilement. C'est fatigant pour la maman, mais le bébé, je crois que ça va. Hein.
Très bien. Merci, Nina. David, vous, est-ce que vous étiez avec la famille aussi passionné de vélo avant de partir ou pas forcément ?
Si, avant de partir, on utilisait beaucoup le vélo. Alors moi, je suis assez urbain à la base. Donc j'ai passé le permis à 40 ans, donc pour moi le vélo c'était un moyen de locomotion, que ça soit pour aller dans les soirées, revenir à point d'heure sur Paris, traverser, aller voir des copains.
D'accord.
Et toujours le vélo était avec moi. Après j'ai commencé à déménager, commencé à atterrir dans des villes où il y avait des ateliers participatifs sur les vélos, le recyclage, où là on commençait à apprendre à réparer son vélo, à commencer à rencontrer des gens qui faisaient des grands voyages. Donc moi, les sacoches, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Pour moi, un voyage vélo, c'était une soirée, une nuit. Et là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui partaient des semaines, des mois, qui parlaient d'autres pays. Et là, je commençais peut-être à me dire, bah ouais, je peux peut-être aller un petit peu plus loin. Puis maintenant, je sais réparer mon vélo. Et il n'y a pas besoin d'argent aussi. C'est ça qui est super avec le vélo, c'est que c'est universel, c'est populaire. On n'arrive pas en conquérant. Et on peut aller un peu partout. On peut mettre son vélo dans le train. On peut s'échapper de 200, 300 km. Et puis après, ça roule en fait. Et il n'y a pas vraiment... Ça se fait un peu comme Nina, un petit peu par hasard et puis de fil en aiguille. Donc ça a été quelques jours, quelques semaines et après quelques mois. Puis après, bon, bah, avec Mylène, on avait la même passion du vélo. Et dès qu'on pouvait, on s'échappait en vélo à droite à gauche. Pour l'anecdote, pour le mariage, on a fait un convoi en vélo avec les 120 invités, quoi. Il y avait 300 mètres de dénivelé et tout le monde est monté en vélo, quoi, de Gênes au lac.
120 vélos.
Ouais, on a réussi à choper pas mal de vélos, ouais. Tout le monde, enfin, pas les 120, parce qu'il y avait quand même quelques anciens, mais on a été une bonne cinquantaine de vélos. Ouais. Et tout le monde a joué le jeu, c'était cool.
Ça devait faire des belles photos, ça.
Ouais, ça fait des belles photos, ouais.
Et des bons souvenirs, surtout. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé pour le voyage dont tu nous as parlé en introduction? Quel a été le déclic entre les petits voyages qu'on fait et puis le gros voyage, entre guillemets?
Bah, de s'immerger plus, parce qu'en fait, quand... Je sais pas si c'est pour Gaylord, c'est pareil, c'est que le corps et même l'esprit, au bout de quelques jours, il a envie de continuer. Enfin, on n'a plus envie de s'arrêter. Le lendemain, le cerveau, il dit, on va où demain? Où on va? Donc, on n'avait pas de lassitude. Et puis, bon, bah, vu qu'on avait eu un... Après, on a eu un petit peu de temps dans notre vie. Donc, on a eu des interruptions, on va dire, par rapport au travail, au financier. Et on a pu partir sur des grandes périodes. Et on a vu que ça marchait aussi sur plusieurs mois. Et donc là, ça donne encore plus envie de continuer. Et juste, mais bon, il faut avoir du temps. Maintenant, on n'a plus beaucoup de temps pour faire les grands voyages. Oui. Donc, on en parlera peut-être après pour, les projets, mais on aimerait avoir un temps plus long. Là.
Et pareil, que, même question que j'ai posée à Nina, la question des enfants aussi, c'était une évidence pour ta famille?
Oui. On s'est dit, de toute façon, maintenant, il y a du super matériel. Les enfants, il y a les carrioles. Et pour l'anecdote, Alix, je crois que sa première nuit, elle l'a fait dans la tente avec nous en Bretagne. La première fois, elle ne s'est pas réveillée. Et dans le vélo, quand c'est des enfants, quand ils sont jeunes, c'est hyper malléable, c'est hyper résilient. Il faut juste trouver le biberon, des lieux calmes pour dormir et c'est bon. C'est hyper facile en fait.
Peut-être plus facile que ce qu'on imagine, j'ai l'impression, hein, par rapport à vos expériences.
Ouais, et ça permet aussi de rencontrer énormément de gens. Même si on parlait tout à l'heure de bêtes de foire, c'est vrai qu'un enfant, ça permet de casser assez vite la glace avec n'importe qui. Donc parfois, on se voit discuter de caniches et de chihuahuas avec des gens. On va caresser des chiens, on discute assez facilement, en fait.
On va y revenir à cette question-là. Gaylord, toi, comment s'est organisé en fait, ton premier départ? Parce qu'il y a eu aussi la question de la création de ta roulotte. Ce projet, il est parti d'où?
Bon, moi, en fait, au niveau voyage à vélo, je n'avais pas fait forcément beaucoup de voyages à vélo avant. Je n'aimais pas les contraintes du vélo, d'être sur une selle, d'avoir les mal au poignet, mal au cou, garder l'équilibre. Et dès que j'ai fait quelques coups de pédale sur un vélo couché trois roues, un trike, là, j'ai compris que c'était bon pour moi. Et donc, c'est à travers une rencontre avec un certain Marc, qui m'a présenté justement ce genre de vélo. Et un prototype de caravane à vélo, puisque moi je réfléchissais en fait à réduire mes charges et mes besoins financiers, et surtout à l'époque du Covid aussi, ça m'a poussé encore plus dans mes retranchements à me dire bon, alors si chacun fait ce qu'il veut dans les règles du jeu qui sont en train de changer, mais si je veux me déplacer, voyager sans carte grise, sans permis, sans toutes les règles qui sont mises en place, et bien mais d'avoir quand même du confort. Eh bien, une caravane à vélo me semblait avoir du sens. Donc, il n'y a pas de pétrole. Et puis après, il y a le côté aussi écologique, le côté liberté, le côté, j'entendais aussi réparation de... La mécanique vélo est bien plus abordable que la mécanique voiture. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui a fait que je suis allé vers ça. Et puis, quand j'ai croisé ce Marc qui avait déjà cette caravane prototype, j'ai pu partir du coup en voyage en 2021. Mais c'était plutôt dans l'état d'esprit à le faire dans ma petite bulle et un peu laisser-moi tranquille avec ce qui se passe. Et puis, finalement, les projecteurs un peu se sont tournés sur le projet. Et j'ai retrouvé le sourire sur les visages qui était caché derrière les masques depuis plusieurs temps. Et puis c'était super bien accueilli, donc voilà, ça a permis de renouer le lien humain. C'est ce qui m'a permis de pousser un peu plus la réflexion.
Encore un point commun que vous avez tous les trois, j'ai l'impression aussi.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta roulotte, du coup, comment elle se compose?
Oui, alors l'idée que je souhaitais sur cette roulotte, c'était que, de retrouver le confort d'un camping-car, d'une caravane, d'un mobilhome. Enfin, voilà, c'est, et que comme je fais 1m92, eh bien, fallait qu'elle soit grande et que je tienne debout dedans. Donc, quand on rentre à l'intérieur, il y a, donc je voulais voilà, le maximum de confort dans le minimum d'espace et que ce soit moi qui le tire. Peu importe le nombre de kilomètres heure à laquelle je tire, tout le temps que je peux avancer, je peux me déplacer et que je puisse aussi traverser les frontières et monter à 800 mètres d'altitude ou voire plus si nécessaire. Donc dedans, on retrouve un évier. Donc c'est un petit bac de peinture que j'ai pu mettre à l'intérieur avec de l'eau qui coule avec la gravité. J'ai un garde-manger. Il y a tout un plan de travail qui donne sur une fenêtre qui s'ouvre. Il y a un réchauffour qui permet de faire des pizzas à la crêpière. J'ai le chauffage au gaz aussi. Et du coup, on a le canapé qui fait lit, les toilettes sèches, le bac à douche, le lave-linge, et puis le lit de place et la tablinette qui peut accueillir 3-4 personnes. Quoi.
Elle fait, tout ça dans combien de mètres carrés?
Elle fait 3,60 mètres carrés. Ouais. Il y a 1,40 m par 2,50 m de long et par 2 m de haut. Elle fait à peu près 300 kg et le poids total roulant elle fait 500 kg avec moi, bah à peu près 460, ça dépend des périodes. Et oui, pour moi, il y a tout le confort d'un camping-car, quoi, sauf que bien sûr, faut tout bouger. Quoi.
Tout est modulable, quoi. Tu as bien réfléchi l'espace pour pouvoir tout faire au même endroit. Quoi,
Mais c'est ça. Ouais, aussi bien le canapé, c'est les toilettes sèches. Et les toilettes sèches, bah, comme c'est un bac en plastique, c'est le receveur de douche. Et c'est en même temps le lave-linge, donc, puisque l'eau de la douche qui va dans ce bac permet d'avoir l'eau savonneuse et laver le linge du jour. Voilà, pas les gros vêtements, je vais utiliser la laverie quand même. Mais sinon, c'était vraiment l'idée de pouvoir montrer que c'est possible aussi de se déplacer avec le confort que moi j'estime en tout cas suffisant pour pouvoir voyager et voir beaucoup, parce que c'est pas un voyage en vélo en fait, c'est plutôt une roulotte que je trimballe en vélo, quoi. C'est plutôt la notion dans ce sens-là, parce que les personnes qui voyagent en vélo ont plutôt tendance à me dire mais c'est pourquoi t'emmènes tout ça, quoi.
Ok, et combien de temps pour la créer cette roulotte?
J'ai passé 5 mois à 10 heures par jour à peu près, de moyenne. J'ai passé 15 jours de plan millimétré. C'est parti sur un ami qui m'a filé une règle millimétrée. Au début, moi, j'allais faire un croquis puis faire de la bricole comme j'ai l'habitude de faire. Et finalement, la règle millimétrée m'a permis vraiment de pouvoir m'amuser à faire 15 jours de plan millimétré, calculer tout le poids au 100 grammes près. Ce qui m'a permis d'arriver sur une première pesée à 300 kg tout pile. C'était ce qui était espéré et c'est ce qui est arrivé, donc tant mieux. Depuis, elle a un petit peu pris du poids, quoi, mais ça va. Non, c'est chouette de travailler au millimètre. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça et c'est très, très, très intéressant.
Et puis ça va avec la notion, je pense, que tu disais au début de réfléchir à ses consommations, à ce qu'on consomme, à ce qu'on utilise, etc. C'est, là, j'imagine que ça va avec, quoi, de réfléchir exactement à ce que tu dois prendre, ce qui est nécessaire ou pas.
Ben c'est ça, c'est de rester dans l'instant présent, ce qu'on appelle. Enfin, voilà, je vis sur 2-3 jours, quoi, avec les réserves de nourriture. Même si j'emmène beaucoup de nourriture, de légumes secs et autre chose, je roule avec beaucoup d'eau aussi. Des fois, je roule avec 30 litres d'eau, donc pour un voyage en vélo, c'est énorme. Mais l'idée, c'est de pouvoir m'arrêter quand je veux, où je veux, et ne pas être dans la contrainte le soir de me dire alors faut que je trouve un point d'eau, faut que je me recharge, faut que j'aille sonner chez quelqu'un, faut que j'aille ailleurs. Non, voilà vraiment l'idée. Puis des fois au fil des rencontres, parce qu'on rencontre tellement de monde dans ce genre de voyage, que puisqu'il n'y a pas de carrosserie déjà, donc ça libère plein de barrières et ça laisse aussi l'opportunité de s'arrêter n'importe où et d'avoir tout le confort à dispo, quoi. Donc
Ok. Je précise qu'il y a plein de vidéos qui existent sur des personnes qui t'ont rencontré et qui ont mis en ligne des choses. On trouve facilement okay. les visites guidées de ta roulotte si vous voulez avoir des images sur... sur cette, ouais. sur cette, alors c'est pas un outil du coup, sur.
C'est une maison.
Comment tu, sur cette maison, voilà tout simplement.
Une maison sur eau, une petite maison.
Bref. Exactement. En quoi vos différents voyages et vos différents moyens de transport ont modifié votre vision du transport, du voyage et du temps? Parce que vous choisissez donc chacun, tous les trois, des choses assez différentes, hein, vous avez vécu des expériences assez différentes. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans l'image que vous aviez du voyage, d'aller d'un point A à un point B? Nina, peut-être?
Oui. Eh ben, nous, on s'est rendu compte rapidement qu'on n'allait pas aller d'un point A à un point B, on allait aller d'un point A à on ne savait pas où. et que se fixer des objectifs et encore plus des objectifs avec du temps, c'était, enfin, à un moment donné, c'était pas jouable parce qu'il y a tout le temps des aléas. Et je pense que c'est ça qui m'a peut-être le plus marqué, c'est vraiment cette vulnérabilité aux aléas, le fait d'être en permanence fragile et du coup dépendant des autres aussi. Et de sortir de ce mythe un peu de l'indépendance où on est... Non, c'est pas vrai qu'on est autonome et qu'on est indépendant. En fait, on a tout le temps besoin des autres, sauf que quand on met de l'essence dans une voiture, on s'en rend moins compte parce qu'on la paye et que ça vient de loin et tout ça. Quand on a des ânes, ben, faut trouver un prêt et on est directement lié aux autres. Donc ça, c'est quelque chose que je crois qui a changé un peu mon rapport au monde.
Parce que vous deviez à chaque fois, du coup, chercher un endroit pour que votre âne puisse nourrir.
Et oui, nous, il faut trouver de l'eau et de l'herbe tous les soirs. Ouais. Ça, okay. C'est impératif.
Et oui. Et ça s'est fait plutôt facilement.
Oui, dans l'ensemble, ça s'est fait facilement. Il y a quelques mauvaises expériences, mais dans l'ensemble, ça s'est fait très facilement. Et même, ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a vraiment à chaque voyage, chaque personne a son mode de voyage particulier. Et nous, on a voyagé un moment en roulotte et avec du coup beaucoup plus de confort que ce qu'on pouvait avoir avec des ânes bâtés où on avait toute notre vie dans quatre sacoches. Et en fait, ce confort, au bout d'un moment, on a trouvé qu'on le payait trop cher, quoi, parce qu'on était obligé d'être tout le temps sur la route, qu'on était assigné au cimetière, aux stations d'épuration pour trouver de l'eau et de l'herbe. Et finalement, après, on est reparti avec des ânes bâtés parce que ça nous permet d'être sur les chemins, de rendre de compte à personne. J'ai un petit peu dérivé de la question.
Non, il n'y a pas de souci. Mais donc, du coup, plus libre avec moins de choses, quoi.
Et ouais, voilà, quand on a vraiment le minimum de confort, ça permet le maximum de liberté, quoi. Et on a pris goût à ça.
Et sur le rythme du voyage, du coup, d'être au rythme des ânes, hein, finalement, oui. Parce que c'est eux qui mènent, j'imagine, un peu le voyage.
Oui.
Ça s'est fait facilement, ça ?
Ah non, au début, moi j'avais l'impression que ça allait fonctionner comme une mobylette, qu'il allait faire droite-gauche, s'arrêter. La nane, c'est vivant, du coup, ça marche pas comme ça, quoi. Donc il m'a fallu quand même du temps pour m'habituer à ça, pour l'accepter, accepter de mettre 4 heures pour traverser le canal du Midi, parce qu'il y avait un pont en fer qui convenait pas. Et puis ça, c'est au début. Puis après, ils sont habitués à voir de plus en plus de choses. Et puis au bout d'un moment, ils passent partout, quoi. Mais c'est un apprentissage. Ouais, c'est un apprentissage. Moi, j'ai grandi, comme la plupart des gens, en ville. Et du coup, d'être au rythme d'un animal qui va lentement, c'est un vrai apprentissage.
Merci. David, en vélo, pareil, est-ce que ça a changé le fait de partir? Enfin, tu nous as expliqué un peu ta vision du vélo au début et ce qu'elle est devenue après, mais est-ce que le fait d'être rythmé par nos jambes, nos coups de pédale, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi?
Déjà, ça te change le schéma du voyage un peu typique. Alors, je vais faire cliché, quoi. Je ne vais pas aller sur un bateau qui fait HLM au lieu inclusive ou... Me dire, je vais chez un tour opérateur, je paye mes 6000 balles parce que j'ai travaillé 8 mois. Là, avec le vélo, il n'y a pas de finance. Hein. On va où on veut, on choisit où on veut son itinéraire. On peut partir de chez soi le lundi et le dimanche, on est à peu près où on a envie d'être, où on peut être. Et en fonction des rencontres, le voyage, il change tout le temps. Le deuxième point qui est hyper important, je trouve, c'est la vitesse. La vitesse, alors nous, on a différents types de vitesse entre Geller, Nina et moi. Et je trouve que nous, on a juste la bonne vitesse pour rencontrer les gens, pour voir ces petits détails qui font qu'on peut peut-être capter un regard, on peut peut-être interagir avec quelqu'un et d'avoir, comme il disait Gaylord, il n'y a pas de carrosserie. Donc, on arrive chez des gens, on n'est pas impressionnant comme un 4x4, on n'est pas impressionnant comme une voiture, on ne donne pas la richesse qu'on a, enfin, on n'explique pas d'où on vient. Et donc, on est accueilli un petit peu différemment. Et là, en fait, on arrive à sortir peut-être du tourisme et passer du côté voyage, voyageur. Et on fait plus partie aussi de son environnement. Quand on tape des côtes pendant 2 ou 3 heures en vélo et on monte d'école, on commence un peu à s'imprégner de l'atmosphère, de la nature, des gens. Et puis quand on arrive au bar et qu'on dit d'où on vient, les gens ils nous regardent parfois, ils font « Non mais vous avez monté ça, mais vous allez où là ce soir ?» Et donc ils disent « Bah vous pouvez dormir là, vous pouvez aller là, vous allez là. » Et ça ouvre les discussions et c'est ça que je trouve ça enrichissant. Le faire, je faisais beaucoup de voyages en montagne tout seul à pied avant. Et je rencontrais peu de monde. Je voyais beaucoup d'animaux, alors ça j'étais content. Je voyais plein d'animaux, c'était très contemplatif, on voit les étoiles. Mais j'ai quand même besoin d'avoir du contact humain à un moment donné pour raconter quelque chose ou partager un repas. Et ça fait partie de notre personnalité. Et c'est ça que je trouve intéressant en vélo. Enfin, une des facettes intéressantes du vélo.
Ok. Et physiquement, ça allait ?
Physiquement, c'est parfait si vous avez des kilos en trop. Parce qu'on fond hyper vite, le corps au bout de... Généralement, nous, il nous faut 3-4 jours pour se remettre en jambes. Et puis après, le physique, il va commencer à se faire. On va avoir un petit peu moins mal aux fesses, on va avoir les muscles qui se développent. On mange différemment aussi. On a des coups de fringale et parfois on rentre dans des boulangeries. Par exemple, en Bretagne, les kouign-amann, c'est parfait ça. Hein.
C'est bien nourrissant.
C'est une plaquette de beurre avec du sucre et on est reparti pour un tour. Ça, c'est génial.
Les petites astuces.
Et puis on rencontre des gens. Enfin, moi, c'était en Italie, en Sicile, où il y avait un petit papy qui avait sa table de camping quand même, hein, sur son vélo. Et il avait un petit vélo pliable et il faisait le tour de la Sicile tout seul. Et il avait 70 ans. Il arrivait à 5 km/h, mais il y avait du dénivelé. Donc même physiquement, c'est ouvert à tout le monde. En fait, ça nous entretient, on est dehors. Je pense que c'est peut-être bien pour le corps et l'esprit, ouais, les deux mêlés.
Ok, on va y revenir sur les bénéfices hein, de physique et autres, et moral aussi, de ces voyages et de la mobilité douce. Gaëlor, toi, est-ce que le voyage que tu fais encore, hein, parce que c'est encore en cours, hein, d'après ce que je comprends, qu'est-ce que ça a changé au niveau de ton rapport au temps ?
Vaste sujet. Mais justement, comme je dis, pour moi, tout est du temps, en fait. Tout dépend où est-ce qu'on le met, ou quand on le choisit. Et c'est sûr que là, depuis que je me suis arrêté cet hiver, donc à 800 mètres d'altitude, forcément, si je veux faire des courses, il y a 20 km avec 600 mètres de dénivelé. Là, exceptionnellement, comme je ne suis pas puriste, oui, j'ai repris une voiture pour me déplacer et faire les courses. Ok, pourquoi pas, mais même si pour moi, le vélo pourrait le faire aussi, mais il y a aussi, on parlait de relations sociales aussi, bah, si on veut, et on arrive à le faire aussi, mais disons que j'ai fait un choix aujourd'hui que lorsque je suis arrêté à un endroit, bah là j'ai réutilisé ce véhicule. Par contre, quand je suis dans la Roule à Zalotte, je suis dans un autre univers. Et cet univers-là, il est là je vois la route juste devant nous, il y a des petits pavés. Chaque petite surface de où j'ai déplacé cette roulotte, je vais m'en imprégner en fait. Je vais faire vraiment, je vais prendre conscience de tout l'univers qui m'entoure. Et chaque 500 mètres, chaque kilomètre, je vais le calculer, je vais le réfléchir. Donc, et ça me permet de savourer en fait quand je déplace les presque 500 kilos. Eh bien, il y a une certaine, je sais pas si c'est satisfaction. Il y a le corps qui a travaillé, qui a été en action pour le déplacer. Et surtout, ça me permet d'être beaucoup moins consommateur du déplacement, puisqu'avant j'ai pu faire dans différents métiers. J'ai fait conducteur poids lourd et j'ai voyagé aussi en avion. J'ai fait pas mal de trucs avant. Et je ne me rendais pas compte de tout ça. On donne un coup de clé dans le Neyman, on appuie sur l'accélérateur, et puis on s'en va faire une soirée à 30 bornes, 50 bornes, on revient, et puis c'est comme ça, et puis on consomme. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est une chance de pouvoir me déplacer aussi rapidement, parce que c'est un pouvoir de déplacement, ce pétrole, c'est exceptionnel. Donc aujourd'hui, je l'utilise, je le savoure, j'apprécie. Et quand je suis là, justement, quand je vais reprendre le rythme de la Roule à Zalotte, ça va être encore un autre univers qui va s'ouvrir à moi, ça va faire du bien.
À chaque fois, on se réhabitue vite au luxe du pétrole.
Oui, pardon. C'est une facilité de fou, comme tu dis. Ouais.
C'est cher pour ce que c'est, au final.
Cet hiver, oui, c'était au mois de novembre, j'ai fait le salon des véhicules intermédiaires sur Millau, Et j'ai découvert du coup les véhicules intermédiaires qui sont des véhicules électriques assistés musculaires. Et là, je trouve que ça a du sens justement pour faire ce fameux le Kellar Lodev. Ça serait vraiment plus chouette que de trimballer une bagnole qui fait une tonne. Voilà, cet hiver, oui, je suis remonté dans cette voiture, un Fiat Multipla pour le plus citer, et de mettre le chauffage, d'avoir le confort de la suspension, le siège et tout. C'est un canapé roulant, quoi. C'est dur. Hein.
Le canapé roulant, je retiens ça. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Je rappelle pour les auditeurs et les auditrices qui nous rejoignent qu'on est en plateau radio sur la journée de la fête des mobilités douces à Lodev, au Hall d'Ardée, en plein centre-ville, dans le cadre de cet après-midi proposé par la mairie de Lodev et le centre socio-culturel de Lodev. Et on est avec Nina, David et Gaylor qui ont eu des expériences de voyage très intéressantes. Et il y a quelque chose dont vous nous avez parlé tous les trois depuis le début de cette émission, c'est vraiment la rencontre avec les gens et cette facilité qu'offre le vélo, le fait d'être avec des ânes ou une roulotte comme la tienne, Gaylor, envers les gens. La discussion se fait vachement plus facilement, je vais y arriver. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez découvert ou de base, vous êtes quand même assez ouvert vers l'autre et vous avez tendance... Enfin, c'est facile pour vous d'aller discuter vers l'autre ou vraiment ces différents voyages vous ont ouvert de nouvelles perspectives sociales ?
Non, moi, je suis assez timide et c'est vrai que la nécessité de rentrer en contact avec les autres m'a aidé à aller vers eux. Et c'est sûr que ça a changé pas mal de choses. Et puis en plus, on a eu des rencontres, au-delà des rencontres éphémères. Nous, on voyageait 6 mois de l'année. Et ensuite, on essayait de se poser pendant les hivers. Ce qu'on a réussi à faire à chaque fois à des endroits différents. Et donc, il fallait chercher des endroits pour passer 6 mois de l'année. Et ça a été possible grâce à des rencontres. Notamment la rencontre avec les villages occupés dans le nord des Pyrénées, dans les Pyrénées espagnoles, là où on est arrivé la première fois en cherchant un endroit pour se poser. On a rencontré ces villages qui étaient squattés dans les montagnes. On a été accueillis à bras ouverts. On nous a proposé une maison pour 6 mois. Et donc là, c'était vraiment une rencontre déterminante, en fait, parce qu'ensuite, on a passé 3 ans à aller à visiter, vraiment à rencontrer tous ces villages. En Aragon, en Navarre et en Catalogne, ça a un peu déterminé tout le reste de notre voyage finalement. Et ça reste encore dans mon cœur. Enfin voilà, c'est trop long pour que ce soit juste une rencontre. En fait, c'est maintenant des gens, des espaces qui font partie de notre vie, je pense.
Et les ânes aussi, j'imagine, favorisent vraiment la rencontre. Doivent forcément venir vous voir. Ouais.
Oui. Ça, c'est sûr. Il y a tout le village qui vient pour nous voir, quoi. Ça, c'est certain. Oui, c'est plutôt chouette. Après, il y a un petit côté pesant aussi, parfois, d'être au centre de l'attention tout le temps. Mais c'est... C'est quand même un moyen de rentrer en contact avec les gens qui est formidable.
David, toi aussi, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, quand tu es arrivé le soir et que les gens comme ça venaient aussi assez naturellement savoir d'où vous veniez, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faisiez assez facilement de discuter
Oui, c'est assez facile quand même de discuter, surtout quand on est en solitaire. Je trouve qu'on est un petit peu plus avenant déjà quand on est en solitaire. Et après, il y a peut-être une chose qui est un peu compliquée, c'est que par rapport à ce qu'elle a dit Nina, c'est la générosité des gens. Il faut qu'on ait un minimum de lâcher prise à un moment. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je suis arrivé au Maroc, peut-être la première soirée, il faisait nuit, c'était 22h, j'étais sur la côte, j'avais passé Ceuta. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui garde les parkings au Maroc, c'est assez commun. Il garde les voitures, les motos, enfin, et puis on paye. Et donc, je vais voir ce jeune et je lui demande où je pourrais me poser avec mon vélo et ma tente, quoi. Et en fait, il me répond le tout naturellement du monde. Il me dit, dans 10 minutes, je finis, t'as qu'à dormir chez moi. Et du coup, même moi, je suis surpris. Je dis, je le connais pas, il m'invite chez lui, je sais pas, il n'y a pas de relation d'argent, c'est pas mercantile, il n'y a rien. Et en fait, ça a été tout juste génial. On a mangé ensemble avec ses amis, et le lendemain, il m'a souhaité bon voyage. Et ça, c'est des choses qu'on a du mal à comment dire, on peut pas le planifier, ça, en fait. Ça arrive,
oui, c'est tu peux pas
un peu comme
dessus.
La bonne étoile, et parfois on fait des mauvaises rencontres aussi, mais c'est plutôt les bonnes rencontres que je vais retenir. Et ça, je trouve, l'humain est généreux. Parfois, quand on est voyageur, je sais pas ce qu'on... On a peut-être une énergie autour de nous qui fait qu'on rencontre ces bonnes personnes et où on va vers ces bonnes personnes qui sont prêtes à accueillir. Parce qu'ici, on le fait pas trop. Enfin, nous, on essaye un petit peu d'accueillir des cyclistes là, avec le site la Warm Shower. Alors ici, c'est bien parce que, comme dit Gaylord, il y a un peu de dénivelé. Et c'est pas une route très passante. Donc le peu qu'on a, on a quand même des gens intéressants. On a des Néo-Zèdes, on a une Belge, on a des gens qui viennent de loin, quoi. Ça, c'est cool.
Et quand tu parles de lâcher prise, ça veut dire accepter la rencontre, accepter...
Ouais, de ne pas se faire des mauvais films, parce que bon, on est quand même abreuvé avec des images toujours de violence. L'autre, il est méchant, l'autre, il a une idée derrière la tête, il veut essayer de t'utiliser. Tous les fils d'infos continuent, là, tout pourri. Et en fait, on s'aperçoit que non, il y a juste des gens parfois qui sont juste désintéressés, qui ont envie juste de discuter, de partager, te montrer ton lieu. Et ça, dans les voyages, parfois, on tombe dessus, quoi. Et c'est souvent après des galères. Parfois, on a des galères, il pleut pendant toute la journée. Là, putain, je vais sentir le chien mouillé pendant 2 jours, ça va être horrible. Et il y a toujours une main qui vient te chercher quand tu es au fond du trou, parfois. Tu rencontres la bonne personne ou tu tombes sur le bon lieu et tu t'y attends pas. Et ça, moi, je pense que c'est un des moteurs du voyage, hein, ça. Ne pas avoir tout...
Planifié, organisé.
Ouais, dans des boîtes.
Et laisser de la place à l'imprévu.
À l'inconnu et à l'imprévu, ouais.
Gaylord, j'imagine que c'est pareil. Tu dois avoir beaucoup de gens qui viennent te voir quand tu te poses dans un endroit. Beaucoup de curieux.
Et oui, je suis tendance à être... je suis pas forcément timide, mais je suis un peu réservé. Et c'est vrai que cette Rosalotte, ce projet, laisse une possibilité d'avoir une place dans cette communauté majoritaire. Et ça, c'est cool de pouvoir être accueilli comme ça. Et c'est sûr que l'intimité, des fois, c'est un peu compliqué d'en trouver. Mais d'où le fait que là, j'ai vraiment transformé le projet, on va dire, en saison, en tournée professionnelle. Donc du coup, là, je me mets dans l'objectif où pendant 6 mois, je vais être pleinement disponible et avec des dates prévues et annoncées et tout. Donc ça sera un peu différent pour pouvoir me réserver des petits moments à moi. Je réussirai à l'avoir, mais là, l'année dernière, c'est sûr que c'était un peu... Au fil des rencontres, et j'allais un peu. Je savais où j'allais, mais après, je pouvais m'arrêter un peu n'importe où en fonction des rencontres. Quoi. Mmh. Et surtout, ça fait poser beaucoup, beaucoup de questions. J'appelle ça vivre au rythme du cœur, puisque le rythme du cerveau permet d'aller très très vite, donc ça correspond au pétrole, et que le rythme du cœur, le rythme du corps, il fait boum boum, donc du coup on y va plus au rythme de la respiration, donc c'est un rythme beaucoup plus lent, et c'est ce qui fait en effet que je rencontre et qu'on rencontre du coup nous trois les personnes qui sont plus en harmonie avec notre façon de penser aussi, quoi. Et ceux qui sont plus qui le sont pas, bah, c'est 5% du temps et cela, ça va, quoi. Il passe très rapidement, justement.
J'aimerais bien vous demander un souvenir marquant. Alors, du coup, 2 souvenirs marquants. Un vraiment positif et un petit peu plus compliqué. Alors, sans rentrer dans des choses mauvaises, mais plus, voilà, tu parlais tout à l'heure, David, des fameux 2 jours sous la pluie, ce genre de souvenirs qui mettent un peu à l'épreuve notre mental ou notre physique, hein, dans vos cas. Est-ce que vous auriez comme ça deux anecdotes à nous raconter chacune et chacun, quelque chose de vraiment extraordinaire et quelque chose qui a été un petit peu plus compliqué? Alors, qui va se lancer? Nina?
Allez. Alors, bah, des bons, il y en a plein. Hein. Des bons, c'est
oui,
je pense
choisir
tout de suite aux rencontres. Mais ouais, c'est ça. Ça serait juste après passer le col du Portalet, donc qui on traverse les Pyrénées avec une jument qu'on vient juste de rajouter à notre convoi avec 2 ânes, mais qui commençait à être un peu trop chargée dans les montagnes. Donc on a acheté une jument et en fait, il s'est avéré que 2 jours après, elle n'avançait plus. Elle avait une fourbure au pied et on était à un rythme de 500 mètres par jour. Donc on s'est posé en urgence dans un endroit, dans un village en Espagne. On s'est mis sur la place du village et on a attendu qu'il se passe quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. Il y a des gens de bouche à oreille. On a été en lien avec quelqu'un qui n'était pas là, mais qui nous a guidés par téléphone jusqu'à un terrain où on a pu rester pendant 15 jours le temps de soigner notre jument. Et cette personne était en plus vétérinaire, donc il nous conseillait par téléphone sur tout ce qu'il fallait faire. Il nous a tiré de ce mauvais pas comme ça.
La magie des rencontres, hein, dont tu parlais David, tout à l'heure, de vraiment tomber sur la bonne personne au moment où,
c'est ça,
où tout semble compliqué.
Et ouais, mauvais moment, bah, c'est beaucoup lié à la météo. Hein. C'est sûr que là, la pluie, c'est pas l'ami du voyageur. Quoi. Du coup, quand on était en Ariège, en plein été, qui faisait 9 degrés et qu'on n'arrivait même pas à faire du feu parce que le bois, il était pourri, il n'arrivait pas
humide,
à sécher.
Ouais. Okay.
Voilà, ça, c'était quand même pas des très bons moments.
Mais vous avez survécu.
Nous avons survécu. Et on a passé on est passé au sud des Pyrénées le plus vite possible. Ouais. Et tout allait mieux.
Ok. David, même exercice.
Bon, bah.
Ça applaudit.
Ouais, le public est chaud. Le public est chaud.
Ils sont chauds.
Bah, c'est un peu comme Nina. Il y a 99,9% de bons moments quand même. Hein. Puis même dans les mauvais, on trouve toujours du bon. On arrive toujours à trouver une petite lueur. Pas si loin d'ici, une fois on était parti avec des potes. Donc nous, on ne regardait pas la météo avant. On disait, bah, tiens, on va partir 3-4 jours. Et puis on était parti sur Aumont-Aubrac. Et puis on voulait faire un tour de l'Aubrac. Et puis bah, on est parti bah, sur un épisode Sevenol, je pense. Donc on s'est pris une journée de pluie. Et puis la deuxième journée de pluie, c'était très compliqué. Normalement, on fera des sous-titrages, madame. On va faire un truc pour... à la radio, ça passe bien, en plus. Alors, et donc, du coup, on s'est retrouvés, mais bon, morale dans les chaussettes. On arrive dans ce village à Aubrac. C'est hyper beau, en fait. Donc là, on était entre montagne et nuages. On voyait rien, c'était de la brume. Des grosses maisons en pierre volcanique, noire. Et puis, il pleuvait des cordes. Hein. Et puis, on s'arrêtait dans les bars, mais il pleuvait tout le temps. Donc, bon, on ne va pas rester dans le bar toute la journée et s'enquiller des cafés ou des bières toute la journée. Et donc, on a continué. Et arrivé à Aubrac, du coup, il y a la maison du parc. Et il y avait une petite une fille qui travaillait là. Elle nous a dit, bah, y a une grange qui est perdue dans le village, allez-y, quoi. Donc, on est parti dans cette grange. Et cette grange, en fait, elle était, c'était pour les bestiaux, donc il y avait des crottes de vaches partout, c'était de la terre battue, mais il pleuvait tellement, on était tellement trempé, on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on se fout là, puis on verra bien, quoi. Et puis, curiosité faisant, on va un petit peu au bout de la grange, puis on voit un escalier un peu bizarre, on est avec nos frontales, parce qu'il fait complètement noir, c'est vraiment une cave voûtée à l'ancienne, et on monte, et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des tablés, je sais pas, pour 40 personnes, avec des bières, avec la lumière, avec des calèches, avec un accordéon, je me souviens de ça, des lumières, et en fait, il y a tout le confort pour accueillir au moins 40 personnes. Et on se retrouve là à 4, et on se regarde, on fait, mais c'est juste inespéré. Et c'était génial ce moment, et c'est hyper simple, en fait, sur des moments hyper simples, ça fait tellement du bien, parfois, se dire, putain, je suis au bon endroit, au bon moment. Et c'est gratuit, et c'est juste parfait, quoi. Les moments désagréables, bah, je ne sais pas si on en parle, bah ouais, quand les voitures nous rasent, on a envie d'écraser tous les 4x4. Quand on rentre dans une boulangerie industrielle, on se dit, le cerveau, il faut qu'il trouve une excuse pour qu'on n'achète rien, qu'on puisse ressortir la tête haute. Et puis parfois, on rencontre des personnes qui ne veulent juste pas qu'on passe ou pas qu'on s'arrête sur le chemin, ou qu'on dorme à côté de chez eux, ça peut arriver, ça. Ou des contrôleurs un peu trop zélés dans le train qui n'aiment pas les vélos et les carrioles. Où il faut tout négocier, ça c'est un petit peu compliqué parfois, ouais.
Ok, ça marche. Gaylor, même exercice.
Oui, eh bien, bah oui, enfin moi je dis 95% du temps c'est toujours au top et c'est vrai que moi le souvenir le plus marquant dans ce voyage c'était lorsque j'ai cassé la soudure du timon de la roulotte, la flèche entre Noël et le jour de l'an, donc là c'était un peu compliqué de voir ma flèche dandiner dans tous les sens. C'était un renfort que j'avais économisé en poids, je devais gagner peut-être 100 ou 200 grammes, mais je n'avais pas mis ce renfort triangulaire. Et ben, finalement je l'ai mis sur la route et heureusement, ben, encore une fois, la vie était là pour accueillir ce moment-là, parce que dès le lendemain j'ai eu un soudeur qui a pu venir apporter son passe à souder, on a réparé ça et j'ai pu repartir. Après, les bons souvenirs, il y en a tellement, de toute façon, c'est tellement tous les jours. Enfin, mais disons que celui que je donne régulièrement, c'est celui sur le canal latéral à la Garonne, où je suis passé, et puis je voyais une personne âgée, un papy, qui est rentré avec ses courses dans la maison, et puis il voit la roulotte arriver, et il va chercher dandinant sa femme en venant lui dire « viens voir, viens voir, viens voir », et puis ils se mettent tous les deux devant le pas de la porte avec le grand sourire, juste pour regarder la roulotte passer, quoi. Et ça, c'est chouette, ils ont encore leur âme d'enfant à l'intérieur d'eux, quoi. Donc c'est cool, voilà.
On arrive bientôt à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, je vais revenir un peu sur ce que tu disais, David. Ça me fait une petite transition. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place du coup pour faciliter justement les déplacements des non motorisés, pour éviter de se faire raser par des voitures, pour éviter d'avoir des soucis dans le train? D'après votre expérience, qu'est-ce qui pourrait simplifier ces déplacements?
Bon, dans le cas de voyage avec des animaux, c'est tellement ultra minoritaire que c'est un peu difficile d'envisager des choses exprès, même si... Et c'est d'ailleurs curieux d'imaginer à quel point les chaussées ont été conçues en fonction des chevaux, des mules, parce que c'était le principal moyen de locomotion. Les villes, elles se sont souvent fondées en fonction des relais de poste, donc aussi des chevaux. Et puis maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est à la fois fondateur de notre civilisation, et à la fois maintenant, il n'y a plus grand-chose. De temps en temps, on trouve des anneaux en ville. Mais c'est vrai que j'aurais du mal à imaginer des aménagements urbains spécifiques. Je me dis que, par contre, le fait d'être ouvert à ce qu'il y ait des animaux qui passent dans les villes, et ça, c'est déjà beaucoup, en fait. Ça amène du vivant, ça amène... Une petite fenêtre sur des possibilités qui sont un peu oubliées, mais qui vont, je pense, revenir, quoi.
Donc, OK, plus sur la notion d'accueil des voyageurs, quoi, finalement.
Oui, des voyageurs, des transhumants, des gens qui se baladent avec des ânes, avec des chevaux. Enfin, plus on en verra, et plus ça va nous remettre en tête que oui, que ça existe, que ça peut exister encore plus, et que oui, des fois, ça fait caca dans les rues, mais voilà.
C'est applaudi. David, par rapport au vélo?
Pour Nina, moi, on pourrait mettre des mangeoires pour les ânes dans tous les bars, hein, à l'entrée, comme dans les Far West, dans les westerns.
Ouais, mais en Espagne, il y a encore une loi qui est encore écrite, comme quoi chaque municipalité se doit d'accueillir les voyageurs sur la place principale avec du foin.
Ah putain, c'est... Ouais.
Pas mal, hein? Ouais. Bon, personne s'en sert, mais elle existe encore.
Moi, d'un point de vue général, c'est la place qui est attribuée à la voiture. Enfin, tout est fait pour la voiture. Avant, on avait des systèmes de train, il y avait des liaisons de train qui existaient en France. Quand on regarde les vieilles cartes d'après la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'il y a un maillage de trains. Puis ici, il y a plein de pistes cyclables, enfin, voies vertes sur des anciennes voies de chemin de fer, en fait. Et on s'aperçoit qu'avant, le train, il avait une bonne place. Maintenant, c'est la voiture, et la voiture... Je ne sais pas si ça rend égoïste, mais en fait, ils n'aiment pas trop partager leur voix. Même moi, quand je suis en voiture, je deviens un con. Mais bon, j'essaie de ne pas raser les cyclistes. Je fais quand même un petit peu attention à ce que je fais. Mais on se croit le maître, en fait, et on a notre place. Et les autres, c'est secondaire. Ils n'ont pas le droit d'être là. Alors nous, pour les vélos, il faut un réseau secondaire. Là, si je prends l'exemple de l'Odève, le long de la 75, il y a un petit chemin... qui longe l'autoroute. Bon, ce chemin, il est horrible à prendre. Il y a des trous partout, il est complètement défoncé avec une carriole, c'est pas possible. Sinon, il faut faire des détours, mais on met 3 ou 4 fois plus de temps. Donc même là, aujourd'hui, je suis venu en voiture. J'aurais pu venir en vélo, mais je vais mettre pratiquement 3 quarts d'heure pour venir en vélo.
Mais tu connais le chemin, du coup, tu préfères pas le.
Bah non, mon cerveau, en fait, il me dit non, j'ai pas envie de faire du vélo. Et si je veux aller vite, faut que je me confronte aux voitures, et là, je monte dans les tours. Ça m'énerve assez vite quand je me fais frôler. Ouais. Même en ville à Paris, je me sentais plus en sécurité qu'ici. Ici, malheureusement, ils ne sont pas habitués au vélo ou aux deux roues. Et du coup, on est vraiment des parasites sur la route. Hein. Y a des camions, ça peut être très, très compliqué.
Hein. Les roues. C'est dangereux,
oui. Et donc, je comprends qu'il y a des gens que ça les freine. Donc, il faudrait vraiment développer un réseau secondaire ou au moins protéger sur certaines portions qui sont à problème. Parce que parfois, il y a des routes très rétrécies en montée, et là, en vélo, on n'avance pas. Et là, les voitures, elles ont, si elles n'ont pas de visibilité, elles nous doublent comme elles peuvent. Mmh. et ils ne se rendent même pas compte des effets que ça pourrait avoir sur nous, en fait.
Oui, puis il y a la notion de vouloir doubler tout le temps, à tout prix, quoi.
Ah oui, ah bah là, la vitesse pour eux. Nous, à 30, ou Gaylord, à 30, ça doit être la vitesse, le mur du son. Pour eux, 30, ils perdent leur temps. Il faut que ça avance, quoi. Il faut une prise de conscience, ouais, sur ces routes secondaires. Et puis des transports alternatifs aussi, parce que mettre les vélos dans les bus, c'est un peu compliqué, là. En fonction du chauffeur, on peut être recalé. Sinon, il faut tout démonter, mettre dans des sacs. Les TER, c'est pareil, il y a très peu de place pour les vélos. Et plus en plus de monde a des vélos, mais il y a 6 places dans un TER et dans un intercité, je ne parle même pas. Ça fait 2 places, enfin, c'est un carnage. Et les TGV, faut aller au wagon-bar et démonter son vélo. Enfin, bref, c'est que de la débrouille, quoi.
Ouais. Ok. Gaylord, j'imagine que c'est un peu le même constat, même si toi, sur la route, je pense que tu prends peut-être un peu plus de place qu'un vélo. Comment, oui. Qu'est-ce qui faciliterait ton déplacement ?
Moi, je pense que je prends suffisamment ma place, c'est sûr, avec les feux détresse et le gyrophare. Et donc, du coup, je suis assez visible. Donc, ça va. Après, dans certaines situations, j'ai fait des fois vouloir me ranger un peu pour arranger, mais en fait, ça arrange pas du tout. Donc, je prends ma place et au moins les personnes se ralentissent. Et après, il y a deux visions des choses. Déjà, on parlait du rapport au temps. Donc, si on veut aller aussi vite aujourd'hui en bagnole, eh bien, c'est peut-être parce qu'on a un rythme de vie hyper pressé. On va aller toujours plus vite et on ira. Malheureusement ou heureusement, c'est l'expérience de la vie qui fait que l'humain va vouloir aller encore plus vite. Donc je pense que c'est un problème de fond, de société. Quel choix on va faire à l'avenir, ou en tout cas, celles et ceux qui veulent ralentir, qu'on nous laisse la possibilité. Ceux qui veulent aller vite, ils vont sur les autoroutes qui sont réservées pour les autos ou les voies pour automobiles. Et le reste, sinon, c'est une voie publique partagée, c'est ce que je suggère. Alors, j'entends ce que tu dis aussi, d'avoir un réseau secondaire, et j'apprécie aussi les voies vertes, et j'apprécie les voies de chemin de fer. Moi, je suis plus partisan de la Chaussidou. La Chaussidou, si vous le connaissez peut-être pas suffisamment, mais c'est celle qu'on voit pour aller en direction du lac du Salagou, vers les Vaillées. Donc c'est mettre la voiture au milieu, et de chaque côté il y a une bande d'1,50 m minimum pour les vélos. Alors certes c'est de la peinture, oui certes ça me paraît pas nécessaire, parce que normalement on le sait qu'on est sur une voie publique, on peut être à pied, à cheval, sur les mains, en vélo et ce que l'on veut. Mais pour aider en tout cas à prendre conscience, à se souvenir, ah oui je suis en voiture, j'ai la chance d'aller vite, ok je me mets au milieu et quand je croise quelqu'un je ralentis. On peut pas mettre ça partout, mais en tout cas ça pourrait mettre une bonne graine semée pour prendre conscience qu'on peut aller moins vite et changer certaines choses, quoi. On verra bien.
Voilà. Ok, merci pour, pour cet exemple. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Dernière petite question avant de se quitter. La question des projets futurs. Est-ce que vous avez des nouveaux voyages prévus très bientôt ?
Moi, j'ai un prochain voyage prévu dans les Cévennes en voiture.
Un road trip.
Non, c'est fini. Le voyage au long cours avec des équidés, c'est a priori fini de mon côté.
Ok, très bien. David ?
Nous, cet été, on a prévu de partir en Suède, en vélo.
En Suède ?
Ouais, on va partir en Suède, monter en Allemagne, du coup en voiture, et puis après prendre le bateau, puis après faire une petite boucle en Suède en famille, ouais, en 2-3 semaines.
Ok, mais dans les montagnes un petit peu ?
Non, c'est assez plat, a priori. Okay. C'est pas moi qui ai étudié le chemin encore, là, c'est Mylène, qui a géré, là, Göteborg, Malmö, quelque chose comme ça.
Ok.
On va voir. Assez sauvage.
Et dans combien de temps vous envisagez départ ?
Ça sera en juillet, du coup. Hein.
Cet été.
Et après, bon, on fait des petits trips avec des potes sur 2-3 jours en vélo, quoi. On devait en faire un la semaine dernière, mais avec la pluie, ça a été annulé. Mais ouais, on fait toujours des petites choses les week-ends. Sur 3-4 jours, c'est bien. C'est des bons formats, c'est pas trop long. Et pas très loin d'ici, en fait. Mmh. On essaye de rester pas trop loin. Parfois, les gens, ils partent loin, mais en fait, il n'y a pas besoin. On peut partir, comme il y avait une petite conférence là, au Festival Voyage Lent, au fond de son jardin, en fait, parfois. Pas besoin d'aller loin.
Pas besoin d'aller loin. Et Gaylord, pour terminer, le futur pour toi ?
Je rebondis sur ce que tu dis. Oui, pas besoin d'aller loin, ça, c'est sûr. Alors que pourtant je pensais que peut-être que j'irai dans d'autres pays aussi, mais pour le moment la France me réserve de très belles surprises, et surtout l'Hérault, le département de l'Hérault, j'en suis tombé amoureux, et j'espère ne pas de garder cet émerveillement et de pas me lasser de tout ce que je vois à chaque fois ici à 80 km aux alentours du Calard. Mais c'est fabuleux, il y a plein de pays différents, et Donc là, le départ de la saison estivale est prévu le 22 avril, donc en direction du festival Joyeuse Escale vers la ville Joyeuse. Donc j'ai appelé cette tournée au rythme de la joie. Et je m'en vais vers Aubenas, Montélimar, je longe la vallée du Rhône. Il y a un petit festival itinérant aussi avec un ami, Eric Lascar. On va projeter son film dans les campings et moi je vais faire une conférence. Et ensuite retour sur la côte et retour aussi par l'Odève et le Kélard. Et au mois d'août, ce sera du côté de Millau, la vallée du Tarn et puis monter du côté du Mont Igual. J'aimerais bien la monter ce coup-ci à 1500 mètres d'altitude. Ça serait un petit défi, ça serait pas être rigolo. Et voilà, jusqu'au 22 septembre. Et puis ensuite, il y aura potentiellement un projet de mise en location de ces roulottes, avec là, ce coup-ci, un véhicule assisté électrique pour permettre à certaines personnes qui veulent faire un petit voyage insolite dans le coin, sur le plateau ou autour de l'étanteau ou ailleurs. Donc ça sera les prochains projets, ça.
Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les trois. C'était Nina, David et Gaylord de la Rosalette.
Et je tiens à remercier C. Samuel aussi, on était très présents au niveau du public. Merci beaucoup au public présent à l'ODEV. C'est très sympa, je pense que tout le monde est sensible à la question des mobilités douces. Donc merci beaucoup pour cette émission, c'était super. Et il y avait Axel à la technique et vous êtes très beau à l'ODEV, merci beaucoup.
Merci Samuel, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. La fête des mobilités douces, ça continue à l'ODEV jusqu'à 19h. On remercie la ville de l'ODEV et le centre socio-culturel de l'ODEV pour l'organisation de cette journée et de ce plateau radio. Et merci à Rachel Théron et Isia Gourmelon. Merci à tous les trois, on s'écoute un petit peu de musique et la fête continue. Merci à tous.
Ouais, merci,
à très
merci
vite.
RPH.